Bonjour à toutes et à tous. L'avantage d'être devant, c'est que je peux vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024. Comme ça, j'aurais oublié personne. Alors ce matin, on a entendu parler d'incrédulité, on a entendu parler de doute. C'est le sujet que nous allons aborder ce matin. C'est la foi, et j'ai appelé mon message une foi véritable. Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts au retour de Jésus? Amen. Alors l'avantage de faire le message en dernier, c'est que je suis plus limité par le temps. Ça, c'est bien. Vous inquiétez pas, j'ai que 3 points qui font 20 minutes chacun, donc ça va aller. Soyez concentrés jusqu'au bout. Est-ce que vous avez déjà répondu à des tests que vous trouvez dans des magazines ou sur Internet qui vous posent des questions sur différents thèmes afin de finalement connaître vos caractères, connaître la personne que vous êtes? Oui, je pense ou sinon, est-ce que vous avez déjà passé des tests pour faire un bilan de compétences? Je sais qu'il y a une personne ici qui a dû le faire il n'y a pas longtemps. Moi-même, je l'ai fait. C'est lors d'une reconversion professionnelle qu'on passe ce genre de test pour savoir et connaître nos qualités, nos défauts et quel métier pourrait nous correspondre au mieux. Eh bien, ce matin, je souhaite vous faire passer un test de compétences, non pas pour un travail, non pas un test de connaissances pour les cibles célibataires afin de connaître l'âme sœur qui vous correspondrait le mieux. Non, ce test nous est proposé dans l'épître de Jacques, et ce test est pour chacun. Il nous permettra de, je l'espère, grandir dans notre relation avec Dieu, et aussi notre relation les uns avec les autres. Alors le programme, ça vous va? Oui? Bon, de toute façon, j'en ai pas d'autres, donc si ça allait pas, ça aurait été compliqué. Alors pour ce faire, nous allons aborder une question qui a engendré beaucoup de discussions au sein de l'Église depuis toujours. Et cette question est la suivante. De quelle manière sommes-nous sauvés? Ou dit autrement, comment sommes-nous justifiés? Et à travers cette question et à travers ce que Jacques peut nous dire, nous allons pouvoir tester notre foi et savoir où on en est avec le Seigneur. Alors il existe dans les Écritures 2 positions qui semblent contradictoires au premier abord concernant l'obtention du salut. Connaissez-vous ces 2 positions? C'est ça. Est-ce que nous sommes sauvés par la foi? Alors, qui pense que nous sommes sauvés par la foi? On fait un petit sondage. Allez, on va dire les 2/3. Qui pense que nous sommes sauvés par les œuvres? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? Il y en a 2 qui pensent que nous sommes aussi sauvés par les œuvres. Effectivement, c'est les 2 positions qui semblent contradictoires, et les chrétiens, depuis toujours, se sont positionnés soit sur l'un ou soit sur l'autre, en prenant l'exemple de Jacques, justement, au chapitre 2, ou bien la position de Paul qui semble dire que nous sommes sauvés que par la foi et que les œuvres ne servent à rien. Donc ce matin, nous allons plonger nos regards dans Jacques, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 26. Jacques 2, verset 14 à 26. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as de la foi. Moi, j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. Toi, tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et qu'il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié, et non pas seulement en vertu d'une foi. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée en vertu des œuvres, pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin? Tout comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. Amen. Alors avant de commencer, de voir quelques points sur ce que l'apôtre Jacques veut nous expliquer, remettons ce texte dans son contexte, et en particulier l'épître de Jacques. Cette épître était destinée à des chrétiens d'origine juive, qui étaient dispersés, des chrétiens qui, par leur origine, avaient connu la loi et avaient connu le devoir d'accomplir les œuvres que la loi leur demandait. Jacques écrit à ces chrétiens d'une manière directe et très pratique. Et il met l'accent sur la pratique de la sainteté plutôt que sur une simple connaissance théorique de la vérité. Et il explique de façon très pragmatique, comment doit se vivre la foi en Christ. Dans le passage que nous venons de lire, Jacques veut nous faire passer un test pour évaluer l'authenticité de notre foi. Il nous donne les moyens d'évaluer si notre foi est vivante, si notre foi est morte, ou si notre foi est stérile. Alors voyons premièrement ce que Jacques dit par rapport à la foi. Dans les premiers versets, Jacques dit « À quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre ? La foi pourrait-elle le sauver ?» Alors d'autres traductions disent, pour être précis, que c'est « cette foi pourrait-elle le sauver ?» C'est-à-dire une foi qui proclame les choses, mais qui derrière n'a pas d'œuvre. Donc Jacques nous dit qu'il ne suffit pas de dire ou de proclamer que nous avons la foi, mais que la véritable foi produit des œuvres. Et que la véritable foi doit être suivie d'œuvres concrètes. Et pour ce faire, il nous donne un exemple d'œuvre sociale, ou on pourrait dire d'œuvre de justice, pour nous expliquer que la foi et les œuvres fonctionnent ensemble. L'exemple est tellement clair qu'on comprend très bien que si on parle mais qu'on n'agit pas pour subvenir aux besoins de notre frère, de notre sœur, cela n'a aucun impact dans la vie de notre frère ou de notre sœur. Ainsi, on comprend facilement que l'un ne va pas sans l'autre. Et Jacques est assez dur puisqu'il dit que si on agit comme ça, notre foi est morte. D'ailleurs, Jésus lui-même nous le dit dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21. Jésus dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Ce ne sont pas ceux qui parlent qui seront justifiés, mais bien ceux qui agissent en faisant la volonté de Dieu, notre Père. J'insiste sur le fait que nos œuvres doivent être le fruit de la volonté de Dieu et pas le fruit de notre propre volonté. Car dans ce même passage, dans Matthieu 7, les versets suivants, 22 et 23, il est écrit « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Des paroles dures aussi, de la part de notre Seigneur. Des paroles compliquées à entendre, mais qui montrent bien que ce ne sont pas les œuvres qui paraissent spirituellement correctes qui est un gage d'accomplir les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. En d'autres termes, faire des bonnes œuvres sans que Dieu nous les demande, c'est lui désobéir. Cela nous permet de réfléchir et de méditer que pour connaître la volonté de Dieu dans notre vie, on a un besoin vital de méditer la parole de Dieu afin de connaître ses commandements, afin de connaître qui est Dieu, comment Dieu agit et qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et comme on le dit souvent ici, se nourrir, c'est pas une option, c'est obligatoire si on ne veut pas que notre foi meure et s'éteint à petit feu. Secondement, dans les versets 18 à 19, Jacques va plus loin en montrant qu'il ne suffit pas de croire qu'il existe qu'un seul Dieu. Parce qu'il nous dit que même Satan et ses démons le croient et ils tremblent. Je pense que Satan, niveau théologique, est certainement celui qui connaît le plus de choses. Pourquoi ? Parce que Satan connaissait Dieu. Satan voyait Dieu et Satan sait qui est Dieu. Donc on peut dire quelque part que théologiquement c'est du high level et qu'il connaît Dieu qui connaît la théologie. Cependant, ça ne l'empêche pas de détester Dieu. Ça ne l'a pas empêché de se détourner de Dieu et de se rebeller contre Dieu. Donc secondement, nous voyons qu'une foi intellectuelle n'est pas suffisante et ne prouve pas que nous avons une véritable foi. Alors après que Jacques ait montré que la foi seule ne prouve rien et que les œuvres seules ne servent à rien, il va expliquer par deux exemples qu'il a pris de l'Ancien Testament qu'il existe un lien fort entre la foi et les œuvres, entre la foi et nos actes, entre la foi et nos actions de tous les jours. Et nous les voyons, ces deux exemples, dans les versets 20 à 26. Au verset 22 et 25, Jacques explique que la foi agit avec les œuvres. Si nous relisons le verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. Et le verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée en vertu des œuvres pour accueillir les messagers et les renvoyer par un autre chemin? Jacques nous montre que les œuvres sont en fait l'accomplissement de notre foi. La foi et les œuvres travaillent de pair. Et on peut dire que, en fait, la foi et les œuvres sont indissociables. Et en cela, nous voyons qu'il n'y a pas de contradiction par rapport à ce que Paul peut dire dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car le verset 23, que Jacques a écrit, fait référence à Genèse 15, verset 6. Alors, verset 23, Jacques dit, « C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit, « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et qu'il fut appelé ami de Dieu. » Au passage, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, comme vous devez le savoir, se sont appuyés sur l'Ancien Testament, sur les écrits de l'Ancien Testament pour confirmer la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et alors ce verset-là fait référence, comme je vous ai dit, à Genèse 15 et au verset 6. On va le prendre. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Non. Alors Genèse 15. Genèse 15. Oh, c'est pas compliqué, Genèse. Hein. C'est le premier livre. Et le verset 6. Il mit, alors le « il » fait référence à Abraham, « mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. » On va lire quelques versets avant. « Alors la parole du Seigneur lui parvint, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, » en parlant de son serviteur, « mais bien celui qui sortira de toi. » Il le mena dehors et dit, « Contemple le ciel et je te prie, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui dit ainsi, « sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Pourquoi est-ce que j'ai relu les quelques versets avant? Pour montrer que ce verset, à quel moment il a été dit, à quel moment cette parole a été dite et dans quel contexte? Au moment où Dieu fit la promesse à Abraham qu'il aurait une descendance grande. Est-ce qu'il avait déjà Isaac, Abraham? Isaac est venu des années après. Et Dieu dit qu'il lui compta comme justice la confiance, la foi qu'il a mise dans la promesse que Dieu lui avait faite. Donc nous voyons que Jacques a la même position que Paul. Il pense aussi que c'est la foi seule qui sauve, que c'est la foi seule qui justifie et qui compte devant Dieu. Éphésiens 2, versets 8 à 10, comme je disais juste auparavant, c'est la position de Paul. Et c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire, mais c'est contradictoire et c'est en opposition un peu avec ce qu'on vient de lire. Mais vous allez voir que pas du tout. Éphésiens 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres. Pourquoi ? Pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Paul explique bien que le salut s'obtient seulement par la foi. Nous sommes sauvés par la foi et la foi seule. La foi seule ne s'obtient, le salut, pardon, ne s'obtient que par la foi. Cependant, le salut est démontré par la fidélité dans l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce que nous venons de lire au verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Donc Paul aussi parle des œuvres et ne dissocie pas la foi des œuvres, puisque juste avant il parle de la foi, que c'est la foi seule qui nous sauve. Quand nous sommes recréés en Jésus-Christ, prenant le baptême, symbole de la crucifixion de notre ancienne nature pour être régénérés en Christ, Paul nous dit que, à ce moment-là, nous sommes recréés en Christ pour accomplir des œuvres, non pas que nous avons ou que nous pensons, mais que Dieu a préparées d'avance. Paul, en fait, met un, on pourrait dire un bémol sur les œuvres, en disant que c'est par les œuvres qu'on est sauvé, afin que l'orgueil ne vienne pas et qu'on ne puisse pas se glorifier. Parce que vous savez que Dieu est un Dieu jaloux et Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pour ça qu'il prend les personnes faibles de ce monde pour pouvoir se glorifier à travers elles et voir que seul un Dieu vivant, puissant, est capable d'agir dans des êtres imparfaits comme nous. Voilà le bémol que Paul met par rapport aux œuvres, qu'on ne retrouve peut-être pas dans l'épître de Jacques. Mais Paul n'a pas de problème avec les œuvres, bien au contraire. S'il y a un exemple à suivre, c'est peut-être bien celui de Paul, où lorsqu'on retrace sa vie, on voit toutes les œuvres que Dieu a fait à travers lui. Le troisième point qu'on peut relever se trouve au verset 22 de Jacques, chapitre 2, où il est dit « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. » Jacques, en fait, est là pour nous expliquer que la foi est une foi vivante. Et que une foi vivante est une foi qui agit. C'est une foi qui obéit à la parole de Dieu, c'est une foi qui obéit aux commandements, et c'est une foi qui manifeste extérieurement des actions d'obéissance ou d'œuvres de justice. Les actions d'obéissance, il a donné l'exemple d'Abraham et de Rahab. En prenant ces deux exemples, il a pris l'exemple d'un homme, il a pris l'exemple d'une femme, il a pris l'exemple d'un homme choisi par Dieu pour devenir son peuple, mais il a aussi pris l'exemple d'une femme païenne, étrangère, et qui est aussi sous la grâce de Dieu et sous la promesse que Dieu avait fait à Abraham en disant « Je bénirai toutes les nations » à cause de toi. La foi n'exclut personne. Tous ceux qui croient peuvent être sauvés, hommes, femmes, loin de Dieu ou près de Dieu. La foi est la seule chose qui sauve. Les œuvres qu'une foi véritable accompli sont aussi issus du fruit de l'amour. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur ne doit être motivé que par l'amour. Dans Galates chapitre 5, verset 6, Paul écrit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Nous voyons qu'une foi qui agit, une foi qui œuvre, doit être motivée par l'amour. Alors, quelle est notre motivation à chacun d'entre nous lorsque nous faisons des œuvres, des actions? Sont-elles motivées par l'amour de Jésus-Christ pour être en bénédiction pour les uns, pour les autres, pour notre prochain, notre voisin? Ou est-ce qu'elles sont motivées par un intérêt personnel, un intérêt autre? En conclusion, Jacques nous dit que c'est en fait pas une question de choix, ou c'est pas une question d'option. Est-ce qu'on choisit la foi? Est-ce qu'on choisit les œuvres? En fait, il nous dit que ce n'est pas la foi ou les œuvres. Jacques nous dit aussi que ce n'est pas non plus la foi et les œuvres. Mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est une foi qui agit. Et on pourrait dire, il s'agit d'une foi qui œuvre. Jean chapitre 2, versets 4 à 6. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. La vraie foi se vit, la vraie foi se pratique en suivant l'ultime exemple, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors des œuvres, on peut tous en faire. Il n'y a pas de petites ou de grandes œuvres, il n'y a pas de petites actions ou de grandes actions, mais dans nos vies, de chaque jour, nous sommes tous capables de faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. J'ai une question qui va résoudre une fois pour toutes la question que j'ai posée au début. Sommes-nous sauvés par les œuvres? Connaissez-vous un exemple dans le Nouveau Testament qui prouve que nous sommes sauvés que par la foi? C'est pas compliqué. Voilà. Mais l'exemple le plus concret, c'est le brigand, effectivement. Je ne pense pas que le brigand ait eu le temps de descendre, d'aller faire des œuvres, et pourtant Jésus lui a dit « Tu seras avec moi ce soir au paradis. » Deuxième question, quelle est la première œuvre ou le premier acte qu'un chrétien né de nouveau fait lorsqu'il se convertit? Il témoigne? Oui, ça peut être une bonne réponse. Il confesse? T'as toutes les bonnes réponses ce matin, Lydiane. Le premier œuvre qu'un chrétien né de nouveau fait, il se fait baptiser. Il prouve sa foi devant les hommes et devant Dieu en prenant cet acte symbolique du baptême pour montrer qu'il est mort à lui-même et qu'il ressuscite en Jésus-Christ. Alors, pour que ce message puisse avoir un impact dans notre vie de tous les jours, j'ai noté quelques réflexions, quelques actions, quelques idées. Nos actions, nos œuvres ou nos, ou nos actes reflètent-ils une foi véritable, motivée par une seule chose, l'amour de Jésus en nous? Nous rappeler que ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne puisse se glorifier. Et c'est bien pour ça que la Bible dit que nous sommes tous des serviteurs inutiles. Notre réflexion, notre question, sommes-nous enclins à aimer notre frère ou notre sœur avec des œuvres de justice? Obéissons-nous par la foi au commandement de Jésus-Christ? Et à cette question, une réponse s'impose, c'est qu'il est nécessaire de connaître notre parole, de connaître la Bible, de connaître ce que Jésus-Christ nous a commandé dans sa parole. Alors ce test, ces questions, je vous invite à vous les poser vous-même cette semaine, afin de pouvoir évaluer où vous en êtes sur le chemin avec le Seigneur. Alors j'avais trouvé une histoire sur Internet qui résume bien ce que on vient de dire. Bon, alors il s'agit d'un vieux Écossais pêcheur. Pourquoi un vieux Écossais, je ne sais pas. Après, je me suis dit, c'est parce que certainement dans ce pays-là, il y a des lacs. Et ce vieux Écossais pêcheur était chrétien. Et il inscrit sur ses deux rames, la rame de gauche, foi, et sur la rame de droite, les œuvres. Alors moi, je suis pas très fort en barque et en rame, on va dire. Mais je sais que si je rame que avec la rame de foi, je risque de tourner en rond. Et pareil, si je rame qu'avec la rame des œuvres, je ne vais tourner qu'en rond, mais dans l'autre sens, par contre. Je trouvais cet exemple génial parce que ça montre bien que la foi et les œuvres sont liées et que pour pouvoir avancer avec le Seigneur dans notre vie spirituelle, nous devons manifester les deux afin que nous puissions avancer et ne pas faire du surplace. Alors, comme vous avez été attentif, je vais vous lire une petite histoire pour terminer. Cette histoire nous rappelle que nous sommes sauvés seulement par la foi et que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, cette petite histoire s'appelle « Ce qui importe, c'est le ticket ». Assis l'un en face de l'autre, dans un train suisse, deux hommes discutaient vivement de la foi. Le croyant tentait d'expliquer à son vis-à-vis l'importance de posséder l'assurance de la vie éternelle. La religion seule ne suffisant pas à l'obtention du salut. Son interlocuteur insistait cependant sur la validité de sa religion à cet effet. Le contrôleur du train vint alors à passer réclamant les tickets de chaque voyageur. Il arriva auprès des deux antagonistes, perfora leurs billets et sans mot dire continua son chemin. Le croyant dit alors à son collègue : « As-tu remarqué l'attitude du contrôleur ? Il ne s'est nullement intéressé à ta personne. D'ailleurs, il ne t'a même pas regardé. Ce qui l'intéressait, par contre, c'était la validité de ton billet. Il voulait voir si celui-ci était payé, s'il s'agissait bien de la pièce requise par les CFF. À défaut de quoi, il t'aurait fait descendre à la prochaine station. Ainsi, un jour, Dieu ne regardera pas à ton apparence, ni à ton appartenance religieuse, mais il réclamera ton billet d'entrée, c'est-à-dire ton salut en Jésus-Christ. Si tu ne le possèdes pas, ou si tu en présentes un faux, tu seras bouté dehors. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et nous lisons dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Alors si tu penses que ta foi est morte, si tu penses que ta foi est stérile, j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous avons un Sauveur qui ressuscite les morts. Nous avons un Sauveur qui rend fécond ceux qui sont stériles. Alors si, dans ton examen personnel, tu t'aperçois que tu tournes en rond, sache que Jésus-Christ est là pour te pardonner, pour t'aider à saisir et comprendre ce que la foi et les œuvres veulent dire, et ainsi pouvoir arrêter de faire du surplace, mais pouvoir continuer, aller de l'avant, comme disait Alice, en regardant à la croix et en regardant à Jésus-Christ. Je vous propose que l'on prie.